Chapitre 36. Le défaut du plan. Il était à nouveau étendu, face contre terre. L'odeur de la forêt lui emplissait les narines. Il sentait le sol dur sous sa joue et la charnière de ses lunettes qui avait glissé de côté lorsqu'il était tombé, lui coupant la tempe. Chaque centimètre carré de son corps lui faisait mal et à l'endroit où il avait reçu le sortilège de mort, il lui semblait qu'un point d'acier l'avait frappé violemment en laissant une meurtrissure douloureuse. Il ne bougea pas, restant exactement là où il s'était effondré, son bras gauche tordu dans une position inconfortable, la bouche ouverte. Il s'était attendu à ce que sa mort déclenche des cris de triomphe et de jubilation. Mais il entendait des bruits de pas précipités, des chuchotements, des murmures empressés.
« Maître ! Maître !»
C'était la voix de Bellatrix qui parlait comme à un amant. Harry n'osait pas ouvrir les yeux, mais confia à ses autres sens le soin d'évaluer sa situation précaire. Il savait que sa baguette était toujours à sa place, sous sa robe, car il la sentait coincée entre le sol et sa poitrine. La sensation d'avoir un petit coussin sous le ventre lui indiqua que la cape d'invisibilité était également là, hors de vue.
« Maître, ça suffit !»
dit la voix de Voldemort. Il y eut d'autres bruits de pas. Plusieurs personnes reculaient d'un même endroit. Voulant voir à tout prix ce qui se passait et pourquoi, Harry souleva ses paupières de 1 mm. Voldemort paraissait se relever. Plusieurs mange-morts s'écartaient de lui en toute hâte, retournant vers la foule rassemblée en bordure de la clairière. Seul, Bellatrix resta agenouillée à son côté. Harry referma les yeux et réfléchit à ce qu'il venait de voir. Les mange-morts s'étaient tout d'abord rassemblés autour du Seigneur des Ténèbres qui semblait être tombé à terre. Quelque chose s'était passé lorsqu'il avait jeté sur Harry le sortilège d'Avada Kedavra. Voldemort s'était-il effondré lui aussi? Apparemment, oui. Tous deux s'étaient brièvement évanouis, et tous deux avaient à présent repris conscience.
« Maître, permettez-moi !»«
Je n'ai pas besoin qu'on m'aide !»
répliqua froidement Voldemort. Bien qu'il ne pût voir la scène, Harry imaginait Bellatrix renonçant à lui tendre une main secourable.
« Le garçon est-il mort ?»
Un silence total tomba sur la clairière. Personne ne s'approcha de Harry, mais il sentit leurs regards se concentrer sur lui comme s'il l'écrasait un peu plus contre le sol, et il fut terrifié à l'idée qu'il voit frémir un doigt ou une paupière.
« Toi !»
dit Voldemort. Il y eut une détonation et un petit cri de douleur.
« Va regarder de plus près ! Dis-moi s'il est mort !»
Harry ne savait pas à qui il avait envoyé vérifier. Il ne pouvait que rester étendu là, à attendre qu'on vienne l'examiner, craignant d'être trahi par son cœur qui battait à tout rompre. En même temps, il remarqua, maigre consolation, que Voldemort n'osait pas l'approcher, qu'il soupçonnait que tout ne s'était pas déroulé selon le plan prévu. Des mains plus douces qu'il ne s'y attendait, touchèrent le visage de Harry, relevèrent une paupière, se glissèrent sous sa chemise, le long de sa poitrine, cherchant son cœur. Il entendait le souffle court d'une femme, ses longs cheveux lui chatouillaient la joue. Il savait qu'elle pouvait sentir la pulsation de la vie battre régulièrement contre ses côtes.
« Est-ce que Drago est vivant? Est-ce qu'il est au château ?»
Le murmure était à peine audible. Ses lèvres étaient à 2 cm de l'oreille de Harry. Elle avait penché la tête si bas que ses longs cheveux masquaient son visage à ceux qui la regardaient.
« Oui !»
répondit-il dans un souffle. Il sentit la main se contracter contre sa poitrine. Ses ongles s'enfonçaient dans sa peau, puis la main se retira. La femme s'était redressée.
« Il est mort !»
s'exclama Narcissa Malfoy en s'adressant aux autres. Ils se mirent alors à hurler. Les cris de triomphe et les trépignements de joie retentissaient à présent. Et à travers ses paupières, Harry distingua des éclairs rouges et argentés que l'on tirait en l'air pour célébrer l'événement. Immobile sur le sol, simulant toujours la mort, il comprit. Narcissa savait que le seul moyen qui lui permettait d'entrer dans Poudlard pour y retrouver son fils serait de se fondre dans les rangs d'une armée victorieuse. Elle ne se souciait plus maintenant que Voldemort gagne ou pas.
« Vous voyez !»
hurla Voldemort d'une voix suraiguë.
« Harry Potter est mort de ma main et aucun homme vivant ne pourra plus me menacer désormais. Regardez, Andolorus !»
Harry s'y était préparé. Il savait que son corps ne resterait pas sans souillure sur le sol de la forêt. Il devait être soumis à des humiliations pour que soit apportée la preuve de la victoire de Voldemort. Il fut projeté en l'air et il lui fallut toute la force de sa volonté pour demeurer inanimé. La douleur à laquelle il s'attendait ne vint pas, cependant. Il fut ainsi catapulté une fois, deux fois, trois fois. Ses lunettes s'envolèrent et il sentit sa baguette glisser un peu sous sa robe, mais il parvint à rester amorphe, inerte. Et lorsqu'il retomba par terre pour la dernière fois, des railleries, des hurlements de rire résonnèrent dans la clairière.
« Maintenant !»
dit Voldemort.
« Allons au château et montrons-leur ce qu'est devenu leur héros. Qui se chargera de traîner le corps ?»« Non ! Attendez !»
De nouveaux rires fusèrent, et quelques instants plus tard, Harry sentit le sol trembler sous lui.
« Tu vas le porter !»
lança Voldemort.
« Il sera bien joli, bien visible dans tes bras. N'est-ce pas ? Ramasse ton cher ami Hagrid. Et les lunettes, oh, les lunettes ! Qu'on lui remette ses lunettes ! Il faut qu'on le reconnaisse !»
Quelqu'un lui colla brutalement ses lunettes sur le nez avec une force délibérée. En revanche, les énormes mains qui le soulevèrent étaient d'une extrême douceur. Harry sentait les bras de Hagrid secoués par ses profonds sanglots. De grosses larmes s'écrasaient sur lui, tandis qu'il le tenait délicatement comme un enfant qu'on berce. Mais Harry n'osa pas lui faire savoir, ni par un mouvement, ni par une parole, que tout n'était pas encore perdu.
« Allez !» « Remue-toi un peu !»
ordonna Voldemort. Hagrid avança d'un pas trébuchant, se frayant un chemin parmi les arbres denses, traversant la forêt en direction du château. Des branches se prenaient dans les cheveux et la robe de Harry, mais il resta immobile, la bouche ouverte, les yeux fermés. Et pendant que les mange-morts poussaient des cris d'allégresse tout autour d'eux, pendant que Hagrid sanglotait sans rien voir, personne n'eut l'idée de regarder si un pou palpitait encore sur le cou de Harry Potter. Les deux géants marchaient derrière les mange-morts en écrasant tout. Harry entendait des arbres craquer et tomber sur leur passage. Il produisait un tel vacarme que des oiseaux s'envolaient en poussant dans le ciel des cris aigus qui couvraient même les railleries des mange-morts. La procession victorieuse poursuivit son chemin en direction du parc et au bout d'un moment, Harry, voyant à travers ses paupières l'obscurité s'atténuer, devina que les arbres commençaient à se rarifier.
« Bonne !»
Le hurlement inattendu de Hagrid faillit forcer Harry à ouvrir les yeux.
« Vous êtes content, maintenant, de ne pas vous être battu, bande de vieux canassons trouillards ? Vous êtes content que Harry Potter soit mort ?»
Hagrid ne put continuer. Il fondit de nouveau en larmes. Harry se demanda combien de centaures les regardaient défiler. Il n'osait pas ouvrir ses paupières pour jeter un coup d'œil. Certains mange-morts lançaient des insultes aux centaures en passant devant eux. Enfin, l'air se rafraîchit et Harry sut qu'ils avaient atteint la lisière de la forêt.
« Stop !»
Harry pensa qu'un ordre de Voldemort avait dû forcer Hagrid à s'immobiliser, car il le sentit vaciller légèrement. Un air froid se répandait à l'endroit où il s'était arrêté, et Harry entendit le souffle, semblable à un râle, des détraqueurs qui patrouillaient en bordure de la forêt. Mais il ne pouvait plus l'affecter pour le moment. Le fait d'avoir survécu avait créé une flamme qu'il sentait brûler en lui, comme un talisman qui le protégeait d'eux, comme si le cerf de son père montait la garde dans son cœur. Quelqu'un passa tout près de lui, et il sut que c'était Voldemort lui-même, car, un instant plus tard, il l'entendit parler, sa voix magiquement amplifiée pour être entendue dans toute l'école, perça les tympans de Harry.
« Harry Potter est mort ! Il a été tué alors qu'il prenait la fuite, essayant de se sauver pendant que vous donniez vos vies pour lui. Nous vous apportons son cadavre comme preuve que votre héros n'est plus. La bataille est gagnée. Vous avez perdu la moitié de vos combattants. Mes mange-morts sont plus nombreux que vous, et le survivant est fini à tout jamais. Il ne doit plus y avoir de guerre. Quiconque continuera à résister, homme, femme, enfant, sera éliminé ainsi que tous les membres de sa famille. « Sortez maintenant du château, agenouillez-vous devant moi, et vous serez épargnés. Vos parents, vos enfants, vos frères et vos sœurs vivront, ils seront pardonnés. Et vous, vous vous joindrez à moi. » pour que nous reconstruisions ensemble un monde nouveau. »
Le parc et le château étaient silencieux. Voldemort se trouvait si près de lui que Harry n'osa pas ouvrir les yeux.
« Venez !»
dit Voldemort. Harry l'entendit avancer et Hagrid fut obligé de suivre. Cette fois, Harry ouvrit les yeux imperceptiblement. Et vit Voldemort marcher à grands pas devant eux, son long serpent à présent libéré de sa cage ensorcelée, enroulé autour des épaules de son maître. Harry, cependant, ne pouvait sortir sa baguette cachée sous sa robe, sans être remarqué par les mange-morts, marchant de chaque côté dans l'obscurité qui se dissipait lentement.
« Harry !» sanglota Hagrid. « Oh, Harry ! Harry !»
Harry referma étroitement ses paupières. Il savait qu'ils approchaient du château et tendit l'oreille. Il essayait, en dépit des éclats de voix enjoués des mange-morts et du bruit lourd de leurs pas, de percevoir les signes de vie qui pouvaient en provenir.
« Arrêtez !»
Les mange-morts s'immobilisèrent. Harry les entendit se déployer en une longue rangée face aux portes ouvertes de l'école. Même à travers ses paupières fermées, il arrivait à distinguer une lueur rougeoyante. La lumière du hall d'entrée se déversait sur lui. Il attendit. À tout moment, maintenant, ceux pour qui il avait essayé de mourir allaient le voir reposant, apparemment mort, dans les bras de Hagrid.
« Non !»
Ce cri était d'autant plus terrible qu'il n'aurait jamais imaginé, même en rêve, que le professeur McGonagall puisse émettre un tel son. Il entendit une autre femme rire non loin de lui et comprit que Bellatrix se délectait du désespoir de McGonagall. Il entr'ouvrit une nouvelle fois les yeux pendant une simple seconde et vit des silhouettes se masser à la porte du château. Les survivants de la bataille étaient sortis sur les marches de pierre pour faire face à leurs vainqueurs et constater par eux-mêmes la réalité de la mort de Harry. Il avait aperçu Voldemort un peu plus loin devant lui, caressant d'un doigt blanchâtre la tête de Nagini. Il referma les yeux.
« Non ! Non ! Harry ! Harry !»
Les voix de Ron, d'Hermione et de Ginny étaient pires que celles de McGonagall. Harry aurait voulu plus que tout leur répondre, mais il se força à rester silencieux et leurs cris agirent comme un détonateur. La foule des survivants prit le relais, hurlant, vociférant des injures à l'adresse des mange-morts, jusqu'à ce que
« Taisez-vous !»
s'exclama Voldemort. Il y eut un bang, un éclair de lumière brillante, et ils furent réduits par la force au silence.
« C'est fini ! Pose-le par terre, Hagrid, à mes pieds ! C'est là qu'est sa place !»
Harry sentit qu'on l'étendait dans l'herbe.
« Vous voyez ?»
continua Voldemort. Harry l'entendit reculer, puis revenir à grands pas juste à côté de l'endroit où il était allongé.
« Harry Potter est mort ! Comprenez-vous maintenant, vous, qui vous êtes bercés d'illusions ? Il n'était rien !» « N'a jamais rien été qu'un jeune garçon qui voulait voir les autres se sacrifier pour lui. »«
Il vous a battu !» s'écria Ron. Le sortilège fut brisé, et les défenseurs de Poudlard se remirent à hurler, à vociférer jusqu'à ce qu'un deuxième bang, plus puissant que le premier, étouffe à nouveau leur voix.
« Il a été tué !» en tentant de s'enfuir subrepticement par le parc du château !»
reprit Voldemort. On sentait dans sa voix qu'il se délectait de son mensonge.
« Il a été tué en essayant de sauver sa propre vie !»
Mais Voldemort s'interrompit. Harry entendit des bruits confus, puis un cri et un autre bang. Il y eut un éclair de lumière et un grognement de douleur. À nouveau, il entr'ouvrit imperceptiblement les paupières. Quelqu'un avait jailli de la foule et s'était précipité sur Voldemort. Harry vit la silhouette s'effondrer sur le sol, désarmé. Voldemort jeta la baguette de son assaillant et éclata de rire.
« Qui est-ce ? »
demanda-t-il de sa voix douce, semblable à un sifflement de serpent.
« Qui s'est porté volontaire pour montrer à quel sort doivent s'attendre ceux qui poursuivent le combat lorsque la bataille est perdue ?»
Bellatrix eut un rire ravi.
« C'est Neville Londubat, maître, le garçon qui a causé tant d'ennuis au carreau, le fils des Aurores, vous vous souvenez ?»
« Ah oui, je me souviens !»
dit Voldemort en regardant Neville. Celui-ci s'efforçait de se relever, sans baguette, sans protection, dans le No Man's Land qui séparait les mange-morts et les survivants de Poudlard.
« Mais tu es un sang pur, n'est-ce pas, mon garçon, toi qui es si courageux ?»
demanda Voldemort à Neville qui lui faisait face en serrant ses poings vides. « Et alors ?» répliqua Neville d'une voix sonore.
« Tu as montré du caractère et de la bravoure et tu es issu d'une noble lignée. Tu ferais un précieux mange-mort. Nous avons besoin de gens comme toi, Neville Londubat. »
« Je me rallierai à vous quand il gèlera en enfer !» répondit Neville. « L'armée de Dumbledore » s'écria-t-il. En réponse, des acclamations s'élevèrent de la foule que les sortilèges de mutisme de Voldemort n'arrivaient pas à faire taire.
« Très bien !»
dit Voldemort. Harry sentit dans le ton velouté de sa voix un plus grand danger que dans ses plus puissants maléfices.
« Si tel est ton choix, Londubat !» Nous allons revenir au plan d'origine. Ce sera sur ta tête,
dit-il à mi-voix,
que ça se passera.
Harry, qui regardait toujours à travers ses cils, vit Voldemort brandir sa baguette. Quelques secondes plus tard, surgissant de l'une des fenêtres fracassées du château, quelque chose qui avait l'air d'un oiseau difforme vola dans la demi-obscurité et atterrit dans la main de Voldemort. Le tenant par son extrémité pointue, il secoua l'objet moisi qui se déplia et pendit au bout de ses doigts, vide et effiloché, le choipeau magique.
Il n'y aura plus de répartition au collège Poudlard,
annonça Voldemort.
Il n'y aura plus de maison. L'emblème, le blason et les couleurs de mon noble ancêtre, Salazar Serpentard, suffiront à chacun, n'est-ce pas, Neville Londubat ?
Il pointa sa baguette sur Neville, qui se raidit, immobile. Puis il lui enfonça le chapeau sur la tête jusqu'au-dessous des yeux. Des mouvements agitèrent la foule rassemblée devant le château, et d'un même geste, les mange-morts levèrent leurs baguettes, tenant en respect les combattants de Poudlard.
« Neville va maintenant nous montrer ce qui arrive aux gens suffisamment sots pour s'opposer à moi !»
dit Voldemort. Et d'un coup de baguette, il mit le feu au choipeau magique. Dans l'aube naissante, des hurlements déchirèrent l'atmosphère. Neville était en flammes, incapable de bouger, et Harry ne put le supporter. Il devait agir. Beaucoup de choses se produisirent alors en même temps. Ils entendirent au loin un grand tumulte en provenance du mur d'enceinte de l'école. À en juger par le bruit, des centaines de personnes escaladaient les murailles qu'on ne pouvait voir d'ici et se précipitaient vers le château en lançant des cris de guerre. Au même moment, Grop, de sa démarche pesante, apparut au coin du château et hurla
« À guerre !»
Les rugissements des géants de Voldemort lui répondirent. Ils coururent vers Grop comme des éléphants en faisant trembler la terre. Puis, des bruits de sabots et des claquements d'arcs résonnèrent et des flèches s'abattirent soudain parmi les mange-morts qui rompirent les rangs, poussant des cris de surprise. Harry sortit la cape d'invisibilité de sous sa robe de sorcier, la déploya sur lui et se leva d'un bond au moment où Neville parvenait lui aussi à bouger. D'un mouvement rapide, fluide, Neville s'était libéré du maléfice du saucisson qui l'avait paralysé. Le choipeau enflammé tomba de sa tête et il tira de ses profondeurs un objet argenté avec une poignée incrustée de rubis étincelants. La lame aux éclats d'argent fendit l'air, mais son sifflement fut inaudible dans le vacarme que produisaient les hurlements des nouveaux venus, le fracas des géants qui s'affrontaient, le martèlement de sabots des centaures, et pourtant, il sembla que tous les regards se tournaient vers elle. D'un coup unique, Neville trancha la tête du grand serpent. Elle tournoya, haut dans les airs, luisant dans la lumière que déversait le hall d'entrée. La bouche de Voldemort s'ouvrit dans un cri de fureur que personne ne put entendre, et le corps du serpent s'abattit lourdement à ses pieds. Caché sous la cape d'invisibilité, Harry jeta un charme du bouclier entre Neville et Voldemort avant que ce dernier ait eu le temps de lever sa baguette. Puis, dominant les hurlements, les rugissements, le tonnerre des géants qui se battaient en piétinant le sol, le cri de Hagrid retentit plus fort que tout le reste.
« Harry !» beugla-t-il. « Harry ! Où est Harry ?»
Il régnait un chaos total. Les centaures qui chargeaient dispersaient les mange-morts. Tout le monde fuyait les pieds monstrueux des géants et les renforts venus d'on ne savait où approchaient dans un grondement d'orage. Harry vit des créatures ailées voler autour des têtes des géants de Voldemort. Des sombrales et Buck, l'hippogriffe, leur donnaient des coups de griffe dans les yeux pendant que Grop les rouait de coups. À présent, les sorciers, défenseurs de Poudlard, tout comme les mange-morts, avaient dû se replier dans le château. Harry lançait maléfices et sortilèges à tous les mange-morts passant à sa portée. Ils s'effondraient sans savoir qui ou quoi les avait frappés, et leur corps était piétiné par la foule qui battait en retraite. Toujours caché sous la cape d'invisibilité, Harry fut brutalement poussé dans le hall d'entrée. Il cherchait Voldemort et le vit. De l'autre côté du hall, jetait des sortilèges en reculant vers la grande salle. Il lançait ses maléfices à droite et à gauche, sans cesser de hurler des instructions à ses partisans. Harry envoya d'autres charmes du bouclier, et les victimes que Voldemort visait, Seamus Finnegan et Anna Abbott, coururent devant lui pour se joindre à la bataille qui déjà faisait rage à l'intérieur de la grande salle. D'autres combattants de plus en plus nombreux montaient à l'assaut, grimpant 4 à 4 les marches de pierre à l'entrée du château. Et Harry vit Charlie Weasley passer devant Horace Slughorn, toujours vêtu de son pyjama vert émeraude. Apparemment, Ils étaient revenus à la tête des familles et des amis de tous les élèves de Poudlard, qui étaient restés pour se battre, rejoints par les commerçants et les résidents de Préaulard. Ban, Ronan et Magorian, les centaures, firent irruption dans le hall dans un grand martèlement de sabots, pendant que derrière Harry, la porte des cuisines était soudain arrachée de ses gonds. Les elfes de maison de Poudlard se répandirent dans le hall d'entrée, hurlant, brandissant des couteaux à découper et des hachoirs. Créature, le médaillon de Régulus Black rebondissant sur sa poitrine, menait la charge. Et malgré le tumulte, on entendait sa voix de crapaud.
« Battez-vous! Battez-vous! Battez-vous pour mon maître, le défenseur des elfes de maison! Battez-vous contre le seigneur des ténèbres, au nom du courageux Régulus! Battez-vous !»
Il hachait, tailladait à grands coups de lame les chevilles et les tibias des mange-morts, leurs visages minuscules animés de hargne, et partout où Harry regardait, les mange-morts ployaient sous le nombre, submergés de sortilèges, arrachant les flèches enfoncées dans leur chair, les jambes poignardées par les elfes ou essayant simplement de s'enfuir, mais engloutis par la horde des renforts. Ce n'était pas fini, cependant. Harry fonça entre les combattants, passa devant les prisonniers qui se débattaient et se roua dans la grande salle. Voldemort, au centre de la bataille, frappait, attaquait quiconque était à sa portée. Harry n'arrivait pas à trouver un angle de tir. Toujours invisible, il se frayait un chemin à coups de sortilège pendant que la grande salle se remplissait de plus en plus, tous ceux encore valides s'efforçant de s'y engouffrer. Harry vit Yaxley jeté à terre par George et Lee Jordan. Il vit Dolof tomber en poussant un cri sous les sortilèges de Flitwick. Il vit Walden McNair catapulté à travers la salle par Hagrid, heurter le mur opposé et s'effondrer inconscient sur le sol. Il vit Ron et Neville abattre Fenrir Greyback. À Belfort, stupéfixé Rockwood, Arthur et Percy terrasser Thickness et Lucius et Narcissa Malfoy essayer de fuir appelant leur fils à grands cris. Voldemort affrontait à présent McGonagall, Slughorn et Kingsley en même temps. Son visage exprimait une haine glacée tandis que les trois autres zigzaguaient autour de lui en esquivant ses maléfices, sans arriver à en venir à bout. À une cinquantaine de mètres de Voldemort, Bellatrix continuait de se battre, elle aussi. Comme son maître, elle faisait face à trois adversaires à la fois, Hermione, Ginny et Luna, qui livraient un combat acharné. Mais Bellatrix les égalait en force, et l'attention de Harry fut détournée par un sortilège de mort qui passa à 2 centimètres de Ginny et faillit la tuer. Il changea alors de direction, se précipitant vers Bellatrix plutôt que Voldemort, mais à peine avait-il fait quelques pas qu'il fut poussé de côté.
« Pas ma fille ! Espèce de garce !»
Tout en courant, Mrs. Weasley se débarrassa de sa cape pour avoir les mains plus libres. Bellatrix pivota sur ses talons et éclata d'un grand rire en voyant sa nouvelle adversaire.
« Écartez-vous !»
cria Mrs. Weasley aux trois filles. Dans un grand mouvement de baguette, elle engagea le combat. Harry regarda avec un mélange de terreur et d'allégresse la baguette magique de Molly Weasley tournoyer, cingler, fendre l'air. Le sourire de Bellatrix Lestrange s'évanouit, se transformant en rictus. Des traits de lumière jaillissaient des deux baguettes. Le sol autour des deux sorcières était brûlant, craquelé. Les deux femmes se livraient un duel à mort.
« Non !»
s'exclama Mrs. Weasley lorsque plusieurs élèves se ruèrent à sa rescousse.
« Reculez ! Reculez ! Elle est à moi !»
Des centaines de personnes s'étaient alignées contre les murs, observant les deux combats, celui de Voldemort contre ses trois adversaires, celui de Bellatrix contre Molly. Harry, invisible, se tenait immobile, déchiré entre les deux. Il voulait attaquer, mais aussi protéger, sans être sûr qu'en intervenant, il ne frapperait pas un innocent.
« Qu'arrivera-t-il à tes enfants quand je t'aurai tué ?»
railla Bellatrix, aussi démente que son maître, faisant des bonds pour éviter les maléfices qui dansaient autour d'elle.
« Quand maman sera partie de la même manière que Freddy Tu ne toucheras plus jamais à nos enfants !»
hurla Mrs. Weasley. Bellatrix éclata de rire, du même rire exultant qu'avait eu son cousin Sirius, avant de basculer en arrière à travers le voile. Et soudain, Harry sut ce qui allait se produire. Le maléfice de Molly passa sous le bras tendu de Bellatrix et la frappa en pleine poitrine, juste au-dessus du cœur. Le sourire jubilant de Bellatrix se figea. Ses yeux semblèrent sortis de leurs orbites. En une fraction de seconde, elle comprit ce qui était arrivé avant de basculer et de s'abattre sur le sol. Des rugissements s'élevèrent de la foule et Voldemort poussa un cri. Lorsque Harry se tourna, il eut l'impression de bouger au ralenti. Sous ses yeux, McGonagall, Kingsley et Slughorn furent projetés en arrière, le corps tordu, battant l'air de leurs bras. La fureur de Voldemort, en voyant tomber son dernier et meilleur lieutenant, avait explosé avec la puissance d'une bombe. Voldemort leva sa baguette et la pointa droit sur Molly Weasley. « Protego !» s'exclama Harry. Le charme du bouclier se déploya au milieu de la grande salle et Voldemort regarda autour de lui pour en chercher l'origine. Au même moment, Harry enleva enfin sa cape d'invisibilité. Le cri de stupéfaction, les acclamations, les « Harry, il est vivant !» hurlés de toutes parts s'étranglèrent aussitôt. La foule avait peur et le silence tomba brusquement. Un silence total lorsque Voldemort et Harry s'observèrent et commencèrent à tourner l'un autour de l'autre. « Que personne n'essaye de m'aider !» lança Harry avec force. Dans le silence complet, sa voix résonna comme la sonnerie d'un clairon. « Il faut qu'il en soit ainsi! Il faut que ce soit moi !» Voldemort émit un sifflement.
« Ce n'est pas ce que veut dire Potter !»
répliqua-t-il, ses yeux rouges grands ouverts.
« Ce n'est pas comme ça qu'il se comporte! Qui vas-tu utiliser comme bouclier aujourd'hui, Potter ?»
« Personne, » répondit simplement Harry. « Il n'y a plus d'Horcrux. Il n'y a plus que vous et moi. Aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit, et l'un de nous va partir pour de bon.
« L'un de nous !»
ricana Voldemort. Tout son corps était tendu. Ses yeux rouges avaient le regard fixe. On aurait dit un serpent prêt à frapper.
« Tu penses que c'est toi qui vas l'emporter, n'est-ce pas ?» Celui qui a survécu par hasard, et parce que Dumbledore tirait les ficelles.
C'était un hasard, quand ma mère est morte pour me sauver, rétorqua Harry. Tous deux continuaient de se déplacer de côté, décrivant un cercle parfait qui maintenait toujours la même distance entre eux. Et pour Harry, il n'existait plus d'autre visage que celui de Voldemort. Un hasard, lorsque j'ai décidé de combattre dans le cimetière. Un hasard lorsque ce soir, j'ai renoncé à me défendre et que j'ai quand même survécu pour revenir me battre.
« Des hasards !»
s'écria Voldemort. Mais il ne frappait toujours pas, et la foule qui observait la scène était comme pétrifiée. Parmi les centaines de personnes présentes dans la salle, eux seuls semblaient encore respirer.
« Le hasard !» Et la chance, et aussi le fait que tu te réfugiais et pleurnichais dans les robes des sorcières et des sorciers plus grands que toi, des hommes et des femmes que tu me laissais tuer à ta place.
Vous ne tuerez personne d'autre cette nuit, assura Harry. Il continuait de tourner en cercle face à face, les yeux verts rivés sur les yeux rouges. « Vous ne tuerez plus personne, plus jamais. Vous ne comprenez donc pas ? J'étais prêt à mourir pour vous empêcher de faire du mal à ceux qui sont ici. »«
Mais tu n'es pas mort !»
J'en avais l'intention. Et c'est cela qui a tout déterminé. J'ai fait ce que ma mère avait fait. Ils sont protégés. Vous ne pouvez plus les atteindre. N'avez-vous pas remarqué qu'aucun des sortilèges que vous leur avez jetés n'a eu d'effet ? Vous ne pouvez pas les torturer. Vous ne pouvez plus les toucher. Vous n'avez rien appris de vos erreurs, Gédusor, n'est-ce pas ?
Tu oses !
Oui, j'ose, affirma Harry. Je sais des choses que vous ne savez pas, Tom Gédusor. Je sais des choses très importantes que vous ignorez complètement. Vous voulez que je vous en dise plus avant que vous ne commettiez une autre grande erreur ?
Voldemort ne répondit rien. Il continua simplement de tourner en cercle.
Harry savait qu'il le tenait momentanément en respect, hypnotisé par l'éventualité, si faible fut-elle, qu'il puisse véritablement détenir un ultime secret.
« S'agit-il d'amour encore une fois ?»
demanda Voldemort,
une expression railleuse sur son visage de serpent.
« La solution préférée de Dumbledore, l'amour, dont il prétendait qu'il était plus fort que la mort. Mais l'amour ne l'a pas empêché de tomber de la tour et de se briser comme une vieille figure de cire. L'amour qui ne m'a pas non plus empêché d'écraser ta moldue de mer comme un cafard, Potter. Mais cette fois, personne ne semble t'aimer suffisamment pour courir à ton secours et recevoir mon sortilège à ta place. Alors, qu'est-ce qui te protégera de la mort lorsque je frapperai ?
Une simple chose, dit Harry. Ils tournaient toujours en cercle, absorbés l'un par l'autre. Plus rien ne les retenait que le dernier secret.
Aujourd'hui, ce n'est pas l'amour qui te sauvera,
reprit Voldemort.
Tu dois croire que tu possèdes une magie dont je serai dépourvu, ou peut-être une arme plus puissante que la mienne.
Les deux, je pense, répliqua Harry. Il vit alors sur le visage de Serpent une expression de stupeur qui se dissipa aussitôt. Voldemort se mit à rire, et son rire était plus effrayant que ses cris, un rire sans humour, un rire de fou, qui résonna en écho dans la grande salle silencieuse.
Toi, tu penses connaître davantage de magie que moi? Que moi, Lord Voldemort, moi qui ai accompli des actes de sorcellerie dont Dumbledore lui-même n'aurait jamais rêvé.
Oh si, il en a rêvé, répondit Harry. Mais il en savait plus que vous. Il en savait suffisamment pour ne pas faire ce que vous avez fait.
Tu veux dire qu'il était faible ?
S'écria Voldemort.
Trop faible pour oser ! Trop faible pour s'emparer de ce qui aurait pu être à lui, de ce qui sera à moi.
Non, il était plus intelligent que vous, dit Harry, meilleur que vous comme sorcier et comme homme.
C'est moi qui ai provoqué la mort d'Albus Dumbledore.
Vous croyez cela, mais vous vous trompez, affirma Harry. Pour la première fois, il y eut un mouvement dans la foule. Les centaines de personnes alignées le long des murs avaient pris en même temps une profonde inspiration.
« Dumbledore est mort !»
Voldemort jeta ces mots à la tête de Harry, comme s'ils avaient pu lui infliger une douleur insupportable.
« Son corps se décompose dans sa tombe de marbre, dans le parc de ce château. Je l'ai vu, Potter. Il ne reviendra pas !»
Oui. « Oui, Dumbledore est mort, » dit Harry d'une voix calme. « Mais ce n'est pas de votre fait. Il a choisi sa propre façon de mourir. Il l'a choisi des mois avant le jour de sa mort. Il a tout arrangé avec l'homme dont vous pensiez qu'il était votre serviteur. »«
Ah ! Quel est encore ce rêve puéril ?»
interrogea Voldemort. Mais il ne frappait toujours pas. Et le regard de ses yeux rouges resta fixé sans vaciller sur Harry. « Severus Rogue n'était pas des vôtres, » reprit Harry. « Rogue était dans le camp de Dumbledore, dans son camp, depuis le moment où vous avez commencé à traquer ma mère. Vous ne vous êtes jamais rendu compte, à cause de cette chose que vous ne pouvez comprendre. Vous n'avez jamais vu Rogue produire un patronus, n'est-ce pas, Gédusor ?» Voldemort ne répondit pas. Il tournait toujours face à face comme deux loups, prêts à s'entre-déchirer. « Le patronus de Rogue était une biche, » poursuivit Harry, « la même que celle de ma mère, parce qu'il l'a aimée pendant presque toute sa vie, depuis qu'ils étaient enfants. Vous auriez dû vous en apercevoir. » Il vit les narines de Voldemort frémir. « Il vous a demandé d'épargner la vie de ma mère, n'est-ce pas ?»
« Il la désirait, voilà tout !»
lança Voldemort d'un ton méprisant.
« Mais quand elle est morte, Il a admis qu'il existait d'autres femmes et d'un sang plus pur, plus digne de lui.
Bien sûr, c'est ce qu'il vous a dit, répliqua Harry. Mais il est devenu un espion pour le comte de Dumbledore dès le moment où vous avez menacé ma mère, et depuis ce temps, il a toujours travaillé contre vous. Dumbledore était déjà mourant lorsque Rogue l'a achevé.
Cela n'a aucune importance,
s'écria Voldemort d'une voix aiguë. Il avait écouté chaque mot avec une attention intense, mais il laissa soudain échapper un gloussement de rire dément.
Cela n'a aucune importance de savoir si Rogue était dans mon camp ou dans celui de Dumbledore ou quel médiocre obstacle ils ont essayé de placer sur mon chemin. Je les ai écrasés, comme j'ai écrasé ta mère, le prétendu grand amour de Rogue. Mais tout cela est très logique, Potter, et dans un sens que tu ne peux pas comprendre. Dumbledore a essayé d'empêcher que je m'empare de la baguette de Sureau. Il voulait que Rogue devienne le vrai maître de la baguette. Mais je suis arrivé avant toi, petit bonhomme. Je me suis procuré la baguette avant que tu ne puisses mettre la main dessus. J'ai compris la vérité avant que tu ne me rattrapes. J'ai tué Rogue il y a 3 heures. Et la baguette de Sureau, le bâton de la mort, la baguette de la destinée, m'appartient véritablement désormais. Le dernier plan de Dumbledore a échoué, Harry Potter.
En effet, reconnut Harry, vous avez raison. Mais avant que vous ne tentiez de me tuer, je vous conseillerais de réfléchir à ce que vous avez fait. Réfléchissez. Et essayez d'éprouver un peu de remords. J'ai du zore.
Qu'est-ce que c'est que ça? Encore?
Rien. Dans tout ce que Harry lui avait dit, ni les révélations, ni les railleries n'avaient causé à Voldemort un tel choc. Harry vit ses pupilles se contracter jusqu'à n'être plus que deux fentes et la peau blanchir autour de ses yeux. C'est votre unique et dernière chance, reprit Harry. C'est tout ce qui vous reste. Sinon, j'ai vu ce que vous deviendrez. Soyez un homme. Essayez. Essayez d'éprouver du remords.
Tu oses ?
Répéta Voldemort. Oui, j'ose, répliqua Harry. Parce qu'il est vrai que le dernier plan de Dumbledore a échoué. Mais ce n'est pas moi qui en ai subi les conséquences. C'est vous, j'ai du zore. La main de Voldemort qui tenait la baguette de Sureau tremblait. Et Harry serra étroitement entre ses doigts celle de Drago. Le moment décisif, il le savait, allait arriver dans quelques secondes. « Cette baguette continue à ne pas marcher pleinement pour vous, parce que vous n'avez pas assassiné la bonne personne. Severus Rogue n'a jamais été le véritable maître de la baguette de Sureau. Il n'a jamais vaincu Dumbledore. »«
Il l'a tué !»«
Vous ne m'écoutez donc pas. Rogue n'a jamais vaincu Dumbledore. » La mort de Dumbledore avait été planifiée par eux deux. Dumbledore voulait mourir sans avoir été vaincu. Il voulait rester le dernier vrai maître de la baguette. Si tout s'était passé comme prévu, le pouvoir de la baguette de Sureau serait mort avec lui, car elle n'aurait jamais été conquise.
Dans ce cas, Potter, c'est comme si Dumbledore m'avait donné la baguette.
La voix de Voldemort frémissait d'une délectation cruelle.
J'ai volé la baguette dans la tombe de son dernier maître. Je l'ai prise contre la volonté de son dernier propriétaire. Son pouvoir m'appartient.
Vous ne comprenez toujours pas, j'ai du zore. Posséder la baguette ne suffit pas. La tenir entre vos mains, vous en servir, ne vous en donne pas réellement la maîtrise. N'avez-vous pas écouté Ollivander? C'est la baguette qui choisit son sorcier. Or, la baguette de Sureau s'est reconnue un nouveau maître avant que Dumbledore ne meure, quelqu'un qui n'avait jamais posé la main dessus. Ce nouveau maître a enlevé la baguette à Dumbledore contre la volonté de celui-ci, sans jamais très bien comprendre ce qu'il avait fait, sans comprendre que la baguette magique, la plus dangereuse du monde, s'était soumise à lui. La respiration de Voldemort s'était accélérée. On voyait sa poitrine se soulever rapidement, et Harry devinait que le maléfice était proche. Il le sentait naître dans la baguette pointée sur son visage. Le véritable maître de la baguette de Sureau était Drago Malfoy. Pendant un instant, une expression de totale stupeur passa sur le visage de Voldemort, mais disparut aussitôt.
« Qu'est-ce que ça change ?»
dit-il d'une voix douce.
« Même si tu as raison, Potter, cela ne fait aucune différence, ni pour toi, ni pour moi. Tu n'as plus la baguette à la plume de Phénix. Notre duel reposera sur la seule habileté. Et quand je t'aurai tué, je m'occuperai de Drago Malfoy. »
« Mais il est trop tard pour vous, » répliqua Harry. « Vous avez laissé passer votre chance. » « Je suis arrivé le premier. J'ai vaincu Drago, il y a quelques semaines. Je lui ai pris sa baguette. » D'un petit geste sec, Harry montra la baguette d'Aubépine et sentit tous les regards se concentrer sur elle. « Tout revient donc à cela, n'est-ce pas ?» murmura Harry. « La baguette que vous tenez dans votre main, c'est elle que son dernier maître a subi un sortilège de désarmement. Si c'est le cas, je suis le vrai maître de la baguette de Sureau. » Une lueur rouge et or jaillit soudain au-dessus d'eux, dans le ciel ensorcelé, en même temps qu'un soleil éclatant dessinait ses premiers contours à la fenêtre la plus proche. La lumière éclaira leur visage au même instant, et Voldemort se transforma brusquement en une tache flamboyante. Harry entendit la voix suraiguë lancer un hurlement au moment où lui-même criait son espoir vers les cieux en brandissant la baguette de Drago.
« Avada Kedavra !»
Expelliarmus !
La détonation retentit comme un coup de canon, et les flammes dorées qui explosèrent entre eux au centre précis du cercle qu'ils avaient dessiné de leurs pas marquèrent le point où les deux sortilèges se frappèrent de plein fouet. Harry vit le jet de lumière verte de Voldemort heurter son propre sort. Il vit la baguette de Sureau s'envoler très haut, sombre dans le soleil levant, tournoyant sous le plafond enchanté, telle la tête de Nagini, virevoltant dans les airs en direction du maître qu'elle ne voulait pas tuer, celui qui avait fini par prendre pleinement possession d'elle. De sa main libre, Harry, avec l'habileté infaillible de l'attrapeur, saisit la baguette au vol, tandis que Voldemort basculait en arrière, les bras en croix, les pupilles fendues de ses yeux écarlates se révulsant. Tom Jedusor s'abattit sur le sol dans une fin triviale, le corps faible, ratatiné, les mains blanches et vides, son visage de serpent dépourvu d'expression, inconscient. Voldemort était mort, tué par son propre maléfice qui avait rebondi sur lui. Harry, les deux baguettes à la main, regarda la dépouille de son ennemi. Pendant un instant de silence frémissant, le choc du moment fut comme suspendu. Puis, le tumulte éclata autour de Harry. Les cris, les acclamations, les rugissements de la foule rassemblée déchirèrent l'atmosphère. La clarté intense du soleil levant illumina les fenêtres et tous se précipitèrent sur lui dans un fracas de tonnerre. Ron et Hermione furent les premiers à l'atteindre, et ce furent leurs bras qui l'entourèrent, leurs cris inintelligibles qui l'assourdirent. Ginny, Neville et Luna arrivèrent à leur tour, et puis tous les Wesley, et Hagrid, et Kingsley, et McGonagall, et Flitwick, et Shurav. Harry ne parvenait pas à comprendre un mot de ce qu'il criait. Il ne savait pas non plus à qui appartenaient les mains qui le saisissaient, le tiraient, essayaient d'étreindre une quelconque partie de son corps. Ils étaient des centaines à se presser contre lui, bien décidés à toucher le survivant, celui grâce à qui tout s'était enfin terminé. Le soleil se leva peu à peu sur Poudlard, et la grande salle resplendit de vie et de lumière. La présence de Harry était devenue indispensable dans les débordements de joie et de deuil, de chagrin et de fête. Tous voulaient qu'il soit là, avec eux, leur leader et leur symbole, leur sauveur et leur guide. Le fait qu'il n'ait pas dormi, que sa seule envie soit de voir seulement quelques-uns d'entre eux, ne semblait venir à l'esprit de personne. Il devait parler à ceux qui avaient perdu un être cher, serrer leurs mains, être témoin de leurs larmes, recevoir leur gratitude. Il devait entendre, à mesure que s'écoulait la matinée, Les nouvelles qui se répandaient en provenance d'un peu partout, annonçant que d'un bout à l'autre du pays, les victimes du sortilège de l'Impérium avaient repris conscience, que les mange-morts étaient en fuite ou capturés, que les innocents enfermés à Azkaban étaient relâchés en ce moment même et que Kingsley Shacklebolt avait été nommé ministre de la magie à titre provisoire. Ils transportèrent le cadavre de Voldemort dans une autre pièce, à l'écart de la grande salle, loin des corps de Fred, Tonk, Lupin, Colin Crivet et des 50 autres qui étaient morts en le combattant. McGonagall avait remis en place les différentes tables, mais en s'y asseyant, personne n'avait tenu compte de la maison à laquelle il appartenait. Ils s'étaient tous mélangés, enseignants et élèves, fantômes et parents, centaures et elfes de maison. Firenze allongé dans un coin, se remettant de ses blessures. Grop regardait à travers une fenêtre défoncée et certains s'amusaient à lancer de la nourriture dans sa bouche hilar. Au bout d'un moment, vidé, épuisé, Harry s'assit sur un banc à côté de Luna.
« Si j'étais à ta place, j'aimerais bien avoir un peu de paix et de tranquillité, » dit-elle.
« J'en rêve, » répondit-il.
Je vais distraire leur attention. Pendant ce temps-là, tu pourras mettre ta cape, »
proposa Luna. Et avant qu'il ait pu ajouter un mot, elle s'écria, l'index pointé vers une fenêtre.
« Oh ! Regardez ! Un énormus à babille !»
Tous ceux qui l'avaient entendu tournèrent la tête. Harry en profita pour glisser la cape sur lui et se lever du banc. À présent, il pouvait se déplacer dans la salle sans être importuné. Il repéra Ginny, de table plus loin. Elle était assise, la tête sur l'épaule de sa mère. Ils auraient le temps de parler plus tard, pendant des heures, des jours, des années, peut-être. Il vit Neville, l'épée de Gryffondor, posée à côté de son assiette, pendant qu'il mangeait, entouré d'un groupe de ferventes admiratrices. Il s'avança dans l'allée qui séparait les tables et aperçut les trois Malfoy serrés les uns contre les autres, comme s'ils ne savaient pas très bien si leur place était ici. Mais personne ne leur accordait la moindre attention. Partout où il regardait, il voyait des familles réunies et il retrouva enfin les deux personnes qu'il avait le plus envie de voir.
« C'est moi, » marmonna-t-il, s'accroupissant entre eux. « Vous venez ?»
Ils se levèrent aussitôt et tous trois, Ron, Hermione et lui, quittèrent la grande salle. De gros morceaux de marbre avaient été arrachés de l'escalier. Une partie de la rampe avait disparu et les marches qu'ils montaient étaient parsemées de gravats et de taches de sang. Quelque part au loin, ils entendirent Peeves qui filait dans les couloirs en lançant un chant victorieux de sa propre composition.
« On les a eus, vaincus, battus, le petit Potter est un héros, Voldy nourrit les asticots !» Ils ont tous été écrasés. Maintenant, on peut rigoler. Papa-la-papi-ta-ta-ta-ti-ta-la-ta-tui-ta-la-pa-poum.
Voilà qui exprime bien l'ampleur et la tragédie de l'événement, vous ne trouvez pas ? Dit Ron en ouvrant une porte pour laisser passer Harry et Hermione. Le bonheur viendrait, songea Harry. Mais pour l'instant, il était étouffé par l'épuisement. Et à chaque pas qu'il faisait, la douleur d'avoir perdu Fred, Lupin et Tonk le transperçait comme une blessure physique. Par-dessus tout, il éprouvait un prodigieux soulagement et un profond besoin de dormir. Mais il devait d'abord une explication à Ron et à Hermione qui l'avaient suivi pendant si longtemps et méritaient la vérité. Il leur raconta méticuleusement ce qu'il avait vu dans la pensine et ce qui s'était passé dans la forêt. Ils n'eurent même pas le temps d'exprimer leur stupeur, leur effarement, car ils venaient d'atteindre la destination vers laquelle ils s'étaient dirigés sans avoir besoin de la mentionner. Depuis la dernière fois que Harry l'avait vu, la gargouille qui gardait l'entrée du bureau du directeur avait été renversée sur le côté. Elle était de travers, l'air un peu sonné, et il se demanda s'il était encore capable de reconnaître un mot de passe. « On peut monter ?» lui demanda-t-il.
« Allez-y !»
grogna la statue. Ils l'enjambèrent et grimpèrent l'escalier en colimaçon qui tournait lentement sur lui-même comme un escalator. Harry poussa la porte située à son sommet. Il jeta un bref regard à la pancine de pierre posée sur le bureau, là où il l'avait laissée, et au même instant,
un bruit assourdissant lui fit pousser un cri. Il crut qu'on lançait à nouveau des maléfices, que les mangements revenaient, que Voldemort ressuscitait. Mais c'était une salve d'applaudissements. Tout autour des murs, les directeurs et les directrices de Poudlard l'ovationnaient debout. Ils agitaient leurs chapeaux, parfois même leurs perruques, tendaient le bras hors de leur cadre pour se serrer la main d'un tableau à l'autre, dansaient et sautaient sur les fauteuils dans lesquels on les avait peints. Dilys Derwent sanglotait sans retenue. Dexter Fortescue brandissait son cornet acoustique et Phineas Nigellus s'écria de sa voix aiguë et flûtée
« Et qu'on dise bien que la maison de Serpentard a joué son rôle, que notre contribution ne soit pas oubliée !»
Mais Harry n'avait Dieu que pour l'homme qui occupait le plus grand des tableaux, juste derrière le fauteuil du directeur. Des larmes jaillissaient derrière les lunettes en demi-lune et coulaient dans la longue barbe argentée. La fierté, la gratitude qui émanait de lui était pour Harry un baume aussi précieux que le chant du phénix. Enfin, Harry leva les mains et les portraits se turent. Dans un silence respectueux, le visage rayonnant, ils s'essuyèrent les yeux et attendirent avec impatience qu'il prenne la parole. Il s'adressa seulement à Dumbledore, cependant, choisissant ses mots avec un soin extrême. Tout épuisé qu'il fût, le regard brouillé par la fatigue, il lui fallait faire un dernier effort, chercher un dernier conseil. « La chose qui était cachée dans le vif d'or, commença-t-il, je l'ai laissée par terre, dans la forêt, je ne sais plus exactement où, mais je ne vais pas aller la chercher, vous êtes d'accord ?»«
Oui, mon cher Harry, »
répondit Dumbledore. Dans les autres tableaux, les visages parurent perplexes, intrigués.
« C'est une décision sage et courageuse, »
approuva Dumbledore.
« Mais je n'en attendais pas moins de toi. Quelqu'un d'autre sait-il où elle est tombée ?»«
Personne, » assura Harry. Dumbledore hocha la tête d'un air satisfait. « Mais je garderai le cadeau d'Ignotus, » poursuivit Harry. Dumbledore eut un sourire radieux.
« Bien sûr, Harry, la cape est à toi pour toujours, jusqu'à ce que tu la lègues à quelqu'un. »
Il y a également ceci. Lorsque Harry montra la baguette de Sureau, Ron et Hermione la contemplèrent avec une révérence que, même l'esprit brouillé par le manque de sommeil, il n'aimait guère. « Je n'en veux pas, » dit-il.
« Quoi ? »
s'exclama Ron.
« Tu es dingue ? » ?»«
Je sais qu'elle est puissante, » reprit Harry d'un ton lâme, « mais j'étais plus heureux avec la mienne. » Alors, il fouilla dans la bourse accrochée à son cou et en sortit les deux morceaux de bois de houx, tout juste reliés par un mince filament de plume de phénix. Hermione disait qu'on ne pouvait pas la réparer, que les dégâts étaient trop importants. Tout ce qu'il savait, c'était que si cela ne marchait pas cette fois-ci, rien ne marcherait jamais. Il posa la baguette brisée sur le bureau du directeur, la toucha avec l'extrémité de la baguette de Sureau et dit « Réparo !» Sa baguette se reconstitua alors, et des étincelles rouges en jaillirent. Harry sut qu'il avait réussi. Il prit la baguette de houx à la plume de phénix et sentit une soudaine chaleur dans ses doigts, comme si sa main et la baguette magique se réjouissaient d'être à nouveau réunies. « Je vais remettre la baguette de Sureau là où elle était, » dit-il à Dumbledore qui le regardait avec une immense affection, une immense admiration. « Elle peut bien y rester. Si je meurs de mort naturelle comme Ignotus, son pouvoir sera brisé, n'est-ce pas? Son dernier maître n'aura jamais été vaincu. Ce sera sa fin. » Dumbledore approuva d'un signe de tête. Ils échangèrent un sourire.
« Tu es sûr ?» demanda Ron.
Il y avait une légère trace de convoitise dans sa voix, tandis qu'il regardait la baguette de Sureau.
« Je crois que Harry a raison, » murmura Hermione.
« Cette baguette cause trop d'ennui pour ce qu'elle vaut, » reprit Harry.
« Et très sincèrement ?»
Il se détourna des portraits, ne pensant plus qu'au lit à baldaquin qui l'attendait dans la tour de Gryffondor,
et se demandant si Créature ne pourrait pas lui apporter un sandwich là-bas. « J'ai eu suffisamment d'ennuis pour le reste de mes jours. »